Écoutez, donc voilà, je suis ravi d'être ici à nouveau. Alors nous en étions restés la dernière fois, donc on avait analysé la relation entre inégalité et croissance. Donc voilà, c'était l'objet de la dernière leçon. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes qui restent ouverts. Il y a toute une recherche maintenant qui se mène sur ce sujet. Il y a beaucoup de, par exemple, on essaie de savoir est-ce que les inégalités ont beaucoup augmenté à l'intérieur des entreprises ou entre entreprises, et les deux, et dans quelle mesure l'innovation a à voir avec ça. Enfin, il se passe beaucoup de choses en mettant les organisations davantage dans le débat. Voilà, l'évolution de l'organisation des entreprises et donc, il se passe. Voilà, il y a une recherche qui est en train de se faire. Mais ça, j'en parlerai peut-être l'année prochaine. Donc, puisque la recherche met du temps à se faire, plus qu'on ne pense. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Malthus, en fait, beaucoup. Donc, tout ce que je vais raconter aujourd'hui tourne autour de Malthus. Et donc, il y a d'abord tout ce qui concerne un petit peu l'évolution de la démographie. En parallèle à la croissance ou à la stagnation du PIB par tête au niveau mondial ou dans différents pays. Donc on veut savoir un petit peu, on sait qu'on connaît des choses sur l'enrichissement au niveau mondial et on connaît des choses aussi sur la population. Et donc, est-ce qu'on peut dire des choses parallèles, est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux? Est-ce qu'il y a un lien entre l'évolution historique de la population des différents pays et le PIB et la croissance, voilà. Donc ça c'est une des premières choses qu'on va analyser. On va étudier un peu le modèle malthusien. Et c'est un modèle qui va vous paraître peut-être un peu spécial, un particulier. Mais en fait, on est beaucoup plus malthusien qu'on ne le pense, voilà. Beaucoup de gens peuvent penser qu'ils sont pas malthusiens et en fait, un peu comme Monsieur Jourdain, ils sont malthusiens sans le savoir. La deuxième partie, ça, je parlerai de climat, puisque quand même cette année c'est la COP21, donc je parlerai de climat également. Donc je vais faire un mélange des deux, mais à nouveau en revenant à un débat à Malthus en fait. Donc je vais commencer par ce qui tourne autour de la population. J'ai la chance d'avoir ça. Donc comment expliquer les évolutions de la démographie mondiale, depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, Ensuite, comment expliquer, et je vous montrerai un peu la tête que ça a, et comment on peut expliquer. Deuxièmement, comment expliquer le passage d'une quasi-stagnation démographique, que je vous verrai dans un instant, à une explosion démographique. En fait, on a eu une quasi-stagnation démographique jusqu'au 19e siècle, en fait. Et après, ça s'est mis, au moins jusqu'à 1700. Et après, ça a commencé à décoller, et là, vraiment, au 19e siècle, c'est devenu ce qu'on appelle une explosion démographique. Et récemment, il y a l'amorce d'une transition démographique où il y a un ralentissement de l'explosion démographique et on espère une inversion. On espère que d'ici 2050, il n'y aura plus du tout d'explosion démographique. D'accord ? Donc, on va essayer de comprendre un petit peu quelles sont les forces qui sous-tendent ces évolutions et est-ce qu'elles ont à voir avec les forces qui sous-tendent la croissance, d'accord ? Du PIB par tête. Et enfin, comment expliquer le passage d'une quasi-stagnation, donc je pars sans du PIB par tête, à une croissance forte de celui-ci? C'est-à-dire, en gros, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est est-ce qu'on peut expliquer l'industrialisation? Pourquoi la croissance est un phénomène aussi récent? Et vous vous souvenez que je vous avais dit en introduction que Madison, vous vous souvenez, je vous avais dit, mais vous savez, la croissance, il n'y en a pratiquement pas eu jusqu'en 1820. Et c'est en 1820 qu'il y a un décollage. D'accord. Et la question, c'est de savoir quelle est l'étincelle qui a fait décoller, quel est le Big Bang qui a fait démarrer la chose. Et donc là, il y a des théories et des gens qui s'affrontent, évidemment, avec en politesse, ils ne s'insultent pas, ils ne se jettent pas des cendriers au visage, mais s'il y a des débats. Donc, on va essayer de comprendre un peu ces débats. Voilà. Ça, c'est un petit peu le programme de la première partie. La deuxième partie, je vous parlerai de climat et comment moi, je vois un petit peu les débats sur le climat. Voilà. Et donc, ça sera un peu une vision, c'est un peu ma vision des choses, mais à mon avis, elle contribue. Enfin, voilà, c'est une des façons de voir les choses. Je voudrais déjà montrer la première chose. Donc, déjà, ce qu'on peut regarder, c'est des comparaisons internationales. On regarde en l'an 2000 et on représente différents pays. Et en horizontal, c'est le PIB par tête, GDP per capita, c'est le PIB par tête, d'accord ? Et en vertical, c'est le taux de croissance de la population entre 1960 et 2000 en pourcentage par année, en moyenne. Hein. Donc vous dites, voilà, chaque année, il y a un taux de croissance de la population. On fait la moyenne sur 1960-2000 et ça vous donne l'idée d'un taux de croissance moyen de la population depuis, disons, sur la période de 1960-2000. Voilà. Et on essaie de voir ce qu'il y a un lien entre le niveau de développement, le niveau de développement qui est représenté par le PIB par tête et le taux de croissance de la population. Et en gros, ce que vous voyez, bon, évidemment, il y a des points partout, mais si vous faites ce qu'on appelle une régression statistique, c'est-à-dire une droite ou une courbe qui minimise la distance aux différents points, hein, qui reflète le mieux les différents points, ce que vous allez trouver, c'est une chose plutôt décroissante. Voyez, donc en fait, on a l'impression, et c'est pas très surprenant, vous allez me dire, mais si c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, je n'avais pas besoin de me déranger. Vous faites une découverte extraordinaire, c'est-à-dire que les pays plus développés tendent à avoir une croissance démographique moindre. Alors les États-Unis, c'est un peu une exception, parce que les États-Unis, ils ouvrent grand, peut-être maintenant, il y a encore des débats maintenant, mais ils ont grand ouvert les vannes de l'immigration, évidemment. Donc c'est comme ça qu'ils ont renouvelé leur population. L'Allemagne, comme vous le savez, a des forts problèmes. Alors, nous, on est un peu spéciaux, parce qu'on a une politique familiale qui fait qu'on a soutenu la démographie en France. Mais ça, bon, on reviendra sur la spécificité. Voilà, là, il y a des... Mais en tout cas, vous voyez que plus ou moins, c'est quand même une relation... qui est plutôt négative, vous voyez. Donc la question, c'est de savoir, eh bien, cette corrélation négative entre le PIB par tête, qui représente le niveau de vie, le niveau de développement du pays, si vous voulez, et le taux de croissance de la population, pourquoi on a cette relation négative? Ça pourrait être dû à beaucoup de choses, c'est une corrélation. Donc en particulier, ça pourrait être dû au fait qu'une croissance plus rapide de la population conduit à un plus bas PIB par tête, parce que d'abord le PIB par tête, c'est le PIB divisé par le nombre de gens. Donc déjà, vous faites croître le nombre de gens, le gâteau est plus petit à partager. Bon, on peut dire, évidemment, avec plus de gens, on produit plus, mais il y a peut-être des rendements décroissants quelque part, et donc à un moment donné, il y a de la congestion, et quand vous avez une population très nombreuse, ben, il y a finalement assez peu à se partager. Donc peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une causalité, en gros, du niveau de la croissance de la population vers le PIB par tête. C'est-à-dire quand j'ai une croissance forte de la population, c'est vrai qu'il y a toujours une croissance du PIB, mais simplement la croissance de la population va plus qu'annuler la croissance du PIB, et donc voilà pour ça que j'aurai une croissance plus faible du PIB. Donc ça, c'est la première possibilité. Mais il se peut aussi qu'il y ait une causalité du PIB vers la population. Mais ça, ce n'est pas évident, parce que, par exemple, on pourrait penser que certains facteurs, ou bien il peut y avoir certains facteurs qui affectent l'un et qui affectent l'autre. C'est-à-dire que certains facteurs qui conduisent un pays à être pauvre le conduisent également à faire croître sa population rapidement. Par exemple, il se peut qu'il y ait des institutions telles qu'il n'y a pas d'assurance, qu'il n'y a pas de système d'assurance, par exemple, pas de système de retraite, etc. Hein, pas de système de... Et du coup, quand vous êtes un pays sans système de retraite, vous vous dites, je vais en proposer sur mes enfants pour m'assurer mes vieux jours. Et donc, je décide de faire plus d'enfants. Ou bien, je peux pas vraiment... Je peux surtout employer sur ma terre mes enfants. Donc, j'ai besoin d'une main-d'œuvre pour travailler avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il se peut que, eh bien, certains éléments qui font que le pays, qui reflètent, le faible niveau de développement du pays, soient également des facteurs qui contribuent à faire que la démographie soit plus nombreuse. Hein. Donc voilà, à ce niveau-là, on en est là, mais on va essayer de regarder, on va revenir là-dessus de manière beaucoup plus détaillée. D'accord? Et je me rends compte en faisant ça que j'ai, en fait, est-ce que j'ai pris avec moi mes notes? Oui, j'ai... Oh là là, quelle merveille! Oh, vous savez, c'est terrible, parce que des fois, je suis très distrait. Pas des fois, toujours. Toujours très distrait. Voilà, donc c'est un petit peu les questions qu'on va se poser hein, à partir de cette figure, d'accord? Donc regardez, gardez cette figure en tête. Alors là, on peut maintenant regarder les évolutions historiques, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de la population mondiale depuis longtemps, depuis par exemple 10 000 avant Jésus-Christ, d'accord? Et à ce moment-là, vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça, vous voyez? Donc zéro, c'est... Vous voyez, on est récent, évidemment, hein, donc on a de l'histoire, on a un peu des idées de population, et on voit que, vous voyez, il y a une croissance assez faible, quand même. Bon, alors, ce n'est pas de la stagnation, hein, mais vous voyez qu'il y a un accroissement de la population, mais vous voyez que ça s'accélère, il y a une extraordinaire accélération, et surtout, à partir de... Là, on est en 1700 ici, et là, alors là, c'est l'explosion démographique récemment, vous voyez. Et là, vraiment, ça a explosé. Donc, la population est en millions, là. Hein, donc, là, vous avez 10 000 millions. Donc, ça fait 10 milliards. Hein, Et là, vous avez l'année. Donc, vous voyez quand même qu'il y a, vu de loin, quand même, on voit qu'il y a une relative stagnation. Ensuite, ça augmente, mais à taux faible, parce que ça, c'est quand même entre 4000, l'an moins 4000 et l'an 0, passer de 10 millions un peu plus de 10 millions à 100 millions, c'était ça, la croissance de population. Et c'est après que vous allez vous voyez, c'est après que vous allez... Parce que là, vous voyez, je représente 10. Là, ce n'est pas la même chose, tel que je représente là. L'écart entre ça et ça est évidemment beaucoup plus faible que l'écart entre ça et ça. Là, je passe de 1000 à 10 000. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, mettez-vous au niveau des échelles, quoi. Si je représentais avec les vraies grandeurs, que je ne peux pas faire, parce que sinon, je monte le plafond n'est pas assez élevé, évidemment. Hein, en fait, vous avez une courbe assez plate jusqu'au 19e siècle, et après, ça décolle complètement. Donc, vous avez la démographie. Donc, comme vous pouvez vous dire, tiens, c'est intéressant, ce monsieur, il nous a raconté dans le premier cours que la croissance aussi du PIB par tête, il ne se passait pas grand-chose avant 1820, et que tout d'un coup, ça décolle. Et puis, on regarde la population et on se dit, c'est un peu pareil. Il ne se passe pas grand-chose, et puis tout d'un coup, ça se met à augmenter. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre l'un et l'autre ? Donc, voilà une question à approfondir. Donc la population mondiale, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, elle demeure faible, même en l'an 1000 après Jésus-Christ. Donc, essentiellement, on a une terre, un globe terrestre très peu peuplé jusqu'en l'an 1000 après Jésus-Christ. La croissance de la population décolle vraiment au 19e siècle. Donc, si vous regardez le taux de croissance de la population moyen, c'est 0,04 entre 10 000 avant Jésus-Christ et 0, quoi. Je mets 1 après, mais je pourrais dire 0, ça ne change pas, évidemment. Donc, vous voyez, la croissance, elle est quasiment nulle. Là, ce n'est pas des moins, c'est moi qui mets, des tirets, mais ce n'est pas des moins, c'est des plus, en fait. je me rends compte que j'ai été pas très malin de faire ça, hein, franchement. Bon, aïe. Bon, vous voyez, enfin, pratiquement pas de croissance. Au 19e siècle, c'est 0,6%, 0,9% pendant la deuxième moitié du 20e, et depuis 150 ans, une croissance moyenne de 1,8%. Et ce qui est énorme, ce qui veut dire qu'il y a des pays où la croissance démographique, elle est absolument énorme. Donc, vous voyez, des pays comme l'Égypte, comme l'Inde, comme la Chine, la Chine, ils ont contrôlé avec la limite d'une naissance par foyer. Mais c'est quand même énorme. Voilà. Donc, si vous voulez, ça vous montre un petit peu le phénomène de croissance démographique. Alors, donc, en fait, qu'est-ce que je voudrais déjà ? Malthus, c'est un modèle intéressant parce que c'est un modèle qui cherche à vous expliquer qu'à la fois, il y ait stagnation du PIB par tête jusqu'au 19e siècle et stagnation relative de la population jusqu'au 19e siècle. C'est un modèle qui rationalise ça, d'accord ? Alors, évidemment, c'est un modèle. Un modèle, ce n'est pas la réalité. La réalité ne peut jamais être enfermée dans un modèle simple. Mais ça vous donne quand même quelques lignes de raisonnement. D'accord ? Donc, Malthus est un économiste anglais. Hein, et il a ce fameux livre qui s'appelle « Essay on the Principle of Population ». Okay. Et c'est un monsieur dont, au début, des fois, quand on utilise son modèle, on dit, mais quand même, c'est un modèle quand même assez tordu, un petit peu simpliste, etc. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on est malthusien ? Voilà. Donc, chaque fois, moi, je vais à un débat à la radio sur la croissance, j'ai toujours en face de moi un partisan de la décroissance qui est typiquement un malthusien, quoi. Vous voyez, voilà. Il ne le sait pas toujours, d'ailleurs. Je dis, vous savez, vous êtes malthusien. Mais il n'y a aucun mal. Il n'y a rien d'infamant, hein. Voilà. Donc, je lui dis, voilà, venez voir mon cours sur Malthus. Bon. Alors, quelles sont les idées de base ? Les idées de base du modèle malthusien. Le modèle malthusien, c'est sur deux idées. La première idée, c'est de dire la production se fait en combinant le travail et un facteur. Donc, en gros, vous êtes dans une économie agricole, essentiellement, et ce qui était le cas. Hein. Il y avait quelques artisans, mais enfin, l'essentiel, c'était l'agriculture. Vous avez des gens qui travaillent sur un facteur fixe qui est la terre, voilà. Et en gros, voilà. Alors, donc, c'est le travail et la terre. Et la terre, elle est fixe, vous voyez, elle est en quantité fixe. Et alors, bien, vous pouvez dire, je peux augmenter ce facteur en colonisant et en défrichant, etc. Mais là, on se considère qu'on est dans un monde où le stock de terre est donné, et puis, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur cette terre. Donc, évidemment, plus de gens vont travailler sur la terre, plus, on est dans un monde dans lequel il va y avoir congestion. C'est-à-dire que plus on est nombreux à travailler la même terre, plus le rendement par tête va être faible. Voilà. C'est ça, parce que vous avez de plus en plus de gens qui augmentent la terre. Si j'étais dans un modèle où les gens travaillaient avec du capital, si vous avez plus de gens, ça ferait aussi plus de capital, comme dans le modèle néoclassique qu'on a vu au début. Et du coup, ce n'est pas clair ce qui se passerait entre, vous voyez, la quantité de capital par tête. Mais quand le facteur est totalement fixe et que vous avez des gens qui travaillent dessus, plus vous avez de gens, plus chacun un petit lopin de terre et le PIB par tête baisse. Vous voyez, ça, c'est la première idée. Elle vous paraît totalement évidente, mais on va discuter tout ça. D'accord ? La deuxième idée, c'est que, si vous comprenez pas, levez la main, puisque tout ce que vous avez le droit de faire, c'est de lever la main pendant le cours. Ce n'est pas moi, c'est une règle qui existe depuis François Ier. Je crois que c'est même lui qui l'a décidé en 1530. Je crois que ça a été une de ses grandes décisions. Hein. C'est qu'on n'a pas le droit de lever la main. On peut lever la main, mais je ne sais pas si on peut intervenir pendant le cours du cours. C'est vraiment frustrant. Je suis habitué d'habitude, moi, à dialoguer. Alors, les êtres humains... alors, la deuxième idée, c'est que, eh bien, on peut, la croissance de la population est quelque chose qui se maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre... ça paraît totalement évident. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les... l'eussiez-vous cru, entre les êtres humains et les animaux, voilà, et les végétaux. C'est que, en gros, d'un côté, quand, eh bien, ce qui limite la reproduction des animaux et des végétaux, c'est la limitation des ressources. La différence, c'est que les êtres humains peuvent décider de réduire la fertilité ou d'augmenter la fertilité. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est dotés d'intelligence et on peut décider de d'être fertile ou d'être moins fertile. Vous voyez ? Et ça, c'est une différence entre les hommes. Et on peut faire d'autres choses, vous voyez, je veux dire, que les animaux ne font pas, voilà. On peut, et donc voilà. Alors, on peut décider d'avoir beaucoup d'enfants. Par exemple, les Canadiens français, les Français au Canada, quand ils sont arrivés au Québec, enfin, ce qui est maintenant le Québec, ils étaient 3380 avant 1680, et en 1950, ils sont 2,5 millions. Donc, vous voyez, là, la croissance rapide de la population, là, hein. Mais on peut décider qu'on veut restreindre la fertilité, d'accord ? Et alors on reviendra, je vous ferai des petites blagues sur comment on fait ça, mais bon, hein, c'est pas l'objet du cours, là c'est plutôt le domaine de mes collègues biologistes et je veux pas rentrer empiéter sur leur domaine, voilà. Alors donc en fait voilà, alors évidemment moi quand j'enseigne le cours, bon, c'est pas ce cours-là, mais quand j'ai parlé de ces choses-là, je dis toujours, voilà, il y a la fable du petit poucet. Alors évidemment quand j'étais aux États-Unis, le petit poucet les gens connaissent pas. Ils connaissent Hansel et Gretel un petit peu éventuellement, mais vous avez déjà un peu l'histoire. En gros, je vais le modèle de Malthus, c'est le petit poucet ou Hansel et Gretel. C'est-à-dire, les choses vont bien, les enfants reviennent à la maison, hein, ça se passe bien, et puis alors, les choses vont mal, on les abandonne dans les bois. En gros, c'est Malthus, c'est une formalisation de ça. C'est ça, en fait. Hein. Donc, voilà. Et plus le niveau par tête est élevé, plus la fertilité est élevée, ou plus la mortalité est faible. Donc, en tout cas, il peut y avoir deux raisons pour lesquelles, dans ce monde-là, eh bien, la population augmente plus vite quand le PIB par tête est plus élevé, c'est que d'un côté, eh bien, on peut décider d'avoir plus d'enfants parce qu'on peut se permettre de les nourrir, et que par ailleurs, pour plus tard, c'est utile d'avoir des enfants. Et deux, eh bien, la mortalité, puisqu'il y a une meilleure alimentation, la mortalité baisse. Et les deux facteurs contribuent à une relation positive entre le niveau de vie, entre le PIB par tête et le taux de croissance de la population. En gros, c'est ça. Et c'est un modèle... Alors, du coup, ça vous donne ce modèle-là. Alors, je ne veux pas vous embêter. Le premier modèle, c'est la relation entre la population, le PIB par tête et la population. D'accord ? Plus la population est élevée, plus le PIB par tête est faible. Ça, c'est la première relation. D'accord ? C'est la relation de congestion. Hein ? Et la deuxième relation, c'est la relation entre le taux de croissance de la population et le PIB par tête. Plus le PIB est élevé, plus la croissance de la population est faible. Et là, il y a un niveau qui est zéro, c'est-à-dire il y a un niveau, YSS pour steady state, pour état stationnaire, où au-dessus, si le niveau de vie est au-dessus de ce Y-là, eh bien, la population augmente, tandis que si le niveau est en dessous de ce niveau-là, eh bien, la population va baisser. Voilà. Et en gros, c'est ça le modèle malthusien. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui détermine le modèle malthusien. Et la beauté de la chose... c'est que ce modèle, eh bien, se résout. C'est-à-dire qu'on peut dire, ben, une fois qu'on a ce modèle, quel est l'état stationnaire ? Ben, l'état stationnaire, c'est l'état où il n'y aura ni croissance ni décroissance de la population. Donc, ça sera à ce niveau-là. Et une fois que vous avez ce niveau-là, vous prenez l'ascenseur, tac, 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 tac. Vous voyez, regardez, ah, c'est amusant. Et vous arrivez au niveau de la population. Et ça vous donne quelle sera la population stationnaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est grâce à ces deux courbes, vous commencez par celle d'en bas. La celle d'en bas, elle vous dit quel est le niveau de PIB par tête où il n'y a ni croissance ni décroissance de la population, le voilà. Et puis maintenant, je prends l'ascenseur et ça me donne le niveau de la population auquel la population se stabilise. Et donc, on sait à la fois quel est le niveau de PIB par tête et le niveau de population. Et en gros, Malthus, on dit, oui, c'est génial, je peux expliquer, en tout cas, jusqu'au 19e siècle, pourquoi on a stagné et sur la population et sur le PIB par tête. Par exemple, donc, puisque j'arrive à déterminer un niveau qui est stationnaire. Alors, par exemple, vous pourriez dire, oui, mais ça, vous trichez parce que vous partez directement de l'état stationnaire. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si vous partiez d'un niveau de population un petit peu au-dessus de ce niveau-là? Je parle d'une population là. Ben là, vous voyez, j'arrive là. Voilà le niveau qui correspond de mon PIB par tête, qui est un peu inférieur au niveau d'état stationnaire. Et là, je prends l'ascenseur vers le bas. Donc, mettons que je démarre d'un niveau de population qui serait là, au-dessus. Je fais comme ça. Et là, je prends l'ascenseur vers le bas. Vous voyez que je fais, j'arrive là. Et vous voyez que là, j'arrive ici. Et là, du coup, le taux de croissance de la population va être négatif. C'est-à-dire que si je démarre d'un niveau de population au-dessus de l'état stationnaire, eh bien, à cause de ça, j'ai trop de monde. Du coup, le PIB par tête va être trop bas. Il va être en dessous du niveau stationnaire. Et du coup, c'est quand le petit poussé, je l'abandonne dans les bois. Et je vais abandonner dans les bois. Et la population va décroître jusqu'à ce qu'elle revienne au niveau d'état stationnaire. Et pareil, si j'étais parti d'un niveau de population en dessous d'état stationnaire. Je pars d'un niveau de population là. Et bien, un niveau en dessous d'état stationnaire, ça me fait un PIB par tête plus grand que que l'état stationnaire, puisqu'il y a moins de gens sur plus de terres. Donc, j'ai un niveau là. Comme j'ai un niveau de PIB par tête au-dessus du niveau stationnaire, eh bien, le taux de croissance de la population va être positif. Et du coup, le L va revenir vers le niveau stationnaire. Vous voyez, la croissance, ça va toujours s'ajuster par le mécanisme de petit pousset. Reprenez, oubliez le diagramme et repensez au petit pousset. Vous avez un niveau au-dessus d'état stationnaire. Eh bien, un niveau, le PIB par tête est trop bas, du coup. Donc, les parents laissent les enfants dans les bois. La population réduit et elle revient au niveau de l'état stationnaire. Ou au contraire, tout d'un coup, vous avez moins, vous voyez. Et ça, c'est Malthus. Et vous voyez, comme c'est tout simple. Et du coup, on dit, mais voyez, regardez, monsieur Malthus, il vous regarde en rigolant, et il vous dit, écoutez, la croissance dans le monde, ça date de 1820. Moi, j'ai un modèle qui vous explique, avec ces deux courbes, tout ce qui s'est passé de la nuit des temps jusqu'à 1820, quoi. C'est pas mal, quand même. Hein? Donc, voilà. Ça, c'est le modèle malthusien. D'accord? Alors, alors, ce que je viens de montrer, c'est équilibre et stable. Vous partez d'un petit peu au-dessus de l'équilibre stationnaire, vous vous ramenez vers le stationnaire, vous partez d'un peu en dessous, eh bien, il y a une force de rappel qui vous ramène toujours au niveau stationnaire. D'accord ? Ça, c'est le modèle malthusien. Alors, on peut regarder l'effet d'un accroissement de productivité. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de Malthus si tout d'un coup, eh bien, on sait mieux produire, voyez ? Si tout d'un coup, on arrive à produire plus avec la même... on arrive avec la même population à produire plus de PIB par tête. Tout d'un coup, la technologie s'améliore. Et il y a eu des améliorations technologiques. Par exemple, en Chine, avant 1820, dans plein de pays, on fait des inventions. Et notamment, je parlerai de l'Irlande avec la pomme de terre qui arrive des États-Unis d'Amérique. La pomme de terre en Irlande, c'est quand même une chose importante. Bon, tout d'un coup, arrive quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on arrive à produire... on arrive à produire, vous voyez la courbe qui était là, elle se déplace vers la droite, vous voyez, pour un même niveau de population, on arrive à produire plus d'output par tête. Alors là, c'est exactement le petit poussé quand il y a des vaches grasses. Vous vous souvenez de l'histoire du petit poussé ? Il les avait d'abord abandonnés dans les bois, et puis, qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, il y a une bonne récolte. Et le petit poussé, justement, il a mis les cailloux, et justement, il a eu du bol, parce qu'il est revenu avec ses frères, au moment où, justement, il y avait... la bonne récolte. Alors, qu'est-ce que fait la bonne récolte ? Ben, la bonne récolte, elle augmente ce qui revient à chacun. Il y a plus à distribuer. C'est le PIB par tête. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe ? Le PIB par tête augmente. On se dit, mais c'est génial. Seulement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand le PIB par tête augmente, eh bien, on sait que ça va entraîner une croissance de la population. Donc, à court terme, c'est très sympa. L'augmentation de productivité vous demande plus d'output par tête. Mais comme il y a plus d'output de PIB par tête, eh bien, à ce moment-là, la croissance de la population augmente, puisqu'on sait qu'elle augmente avec le niveau de vie. Ça encourage et elle va augmenter jusqu'à ce qu'on revienne au niveau initial du PIB par tête. Vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'à court terme, on passe de là, vous voyez, on était ici, à ce niveau-là, on passe de là à là, mais après, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, eh bien, la croissance de la population va faire qu'on va se stabiliser, elle va absorber tout. Et finalement, l'état stationnaire ne peut être que celui-là, il ne peut être que défini par cette courbe-là, qui, elle, n'a pas bougé, hein, la courbe de fertilité. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à long terme, toute l'augmentation de productivité va être absorbée par la démographie. Donc, le monde de Malthus, c'est un monde où on est toujours tenu par le niveau de subsistance. Vous voyez, il y a un niveau de subsistance. Quand les choses s'améliorent, eh bien, les gens font plus d'enfants et à ce moment-là, et donc le PIB par tête revient au même niveau qu'avant. Et toute l'augmentation de productivité, ça s'est traduit à long terme par une augmentation de la population. Donc à court terme, ça se traduit par un PIB par tête qui augmente, mais après, ça va entraîner une population qui augmente, et donc ça va ramener le PIB par tête à son niveau stationnaire initial. Vous voyez, ça c'est le monde de Malthus, c'est pas un monde très optimiste, ça veut dire qu'en fait on ne peut jamais générer une croissance du PIB par tête. Vous voyez, dans le monde de Malthus, on revient toujours à l'état stationnaire. Vous voyez, donc ça c'est la chose importante. Et alors là, j'ai regardé, si vous voulez, l'effet d'une croissance d'une fois de la productivité, mais on peut dire qu'est-ce qui se passe au cours du temps ? La productivité, elle augmente toujours un petit peu, mais ce qui se passe, c'est qu'elle est en permanence absorbée par la croissance de la démographie. Et en fait, quand vous décrivez le modèle, ce qui s'est passé dernièrement, on vous dit c'est vrai qu'il y a eu des inventions en Chine, hein, on a inventé la roue, on a inventé le compas, ils ont inventé les spaghettis, ils n'appelaient pas ça comme ça en Chine, hein. Ils ont fait plein d'inventions, mais en fait, ces petites inventions technologiques, et chez nous aussi, il y a eu des inventions technologiques, hein, mais à chaque fois, ça faisait une croissance faible, et cette croissance faible de la productivité était toujours absorbée par la croissance de la population. Et c'est pour ça qu'on reste dans ce qu'on appelle une trappe malthusienne. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est la chose. Et d'ailleurs, et donc, vous voulez vous dire, mais alors, quel est le seul moyen d'augmenter à long terme le PIB par tête ? C'est de faire descendre cette courbe. C'est-à-dire qu'elle devrait passer de ça à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je le vois. Vous voyez ici, on le voit là. Vous voyez, ça c'est le... Là, vous voyez, si par contre je fais en sorte que cette courbe-là, qui était la courbe de croissance de la population, je la fais passer de là à là, vous voyez que le point stationnaire, il va augmenter. C'est-à-dire que la seule façon chez Malthus d'augmenter à long terme le PIB par tête, c'est l'abstinence, en fait. Vous voyez ? Donc, Malthus, ce qu'il va vous proposer, c'est que pour lui, le progrès technique... C'est pas, vous voyez très vite où je veux en venir quand je vais parler de climat. On le voit là, Greenpeace et tout, hein, avec tout le respect, mais c'est très quand même dans la même logique. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est de réduire la fertilité. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? Une seconde que je regarde. C'est l'abstinence. Donc, par exemple, il y a différentes méthodes. Et il y a eu des méthodes dans l'histoire pour réduire la fertilité. Par exemple, comment on peut faire ? Eh bien, il y avait les Kaoun Medical Papyrus. Vous en avez entendu parler, vous, des Kaoun Medical Papyrus ? Moi, j'ai des collègues sûrement ici. S'ils m'entendent parler comme ça, ils vont hurler parce que probablement une chaire sur ce thème au Collège de France, je ne sais pas, sur Kaoun Medical Papyrus. Il y avait des suppositoires. En 1850, avant Jésus-Christ, il y avait des suppositoires vaginaux. Ah ouais, genre, je ne savais pas ça, que ça existait en Égypte, visiblement, papyrus. Et on mentionne, la Bible aussi mentionne des méthodes, des textes médicaux grecs discutent de la contraception, etc. Donc il y a déjà, vous voyez, on dit, voilà, vous êtes dans l'univers de Malthus, tout ça c'est bon pour vous, parce que ça va augmenter durablement le PIB par tête. Bon, il y avait des pratiques d'infanticide, ça c'était moche. Les Grecs laissaient des enfants illégitimes dehors de la maison pour les abandonner, quoi. Alors, il y avait en Europe du Nord des mariages tards, jusqu'à la révolution industrielle, etc. Enfin, et après, évidemment, il y a eu les contraceptifs modernes depuis deux siècles. Mais si vous voulez, voilà, c'est intéressant que c'est un monde où il faut s'abstenir. Et quand on voit sur le climat ou les ressources limitées, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Maintenant, on ne peut plus se permettre de croître. La seule façon, c'est l'abstinence. C'est de manger moins, c'est de consommer moins, etc. » Il y a du vrai dans tout ça. Mais si vous voulez, la vision, elle est profondément malthusienne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le même raisonnement. On revient au même raisonnement. Voilà. Je reviendrai à tout ça tout à l'heure. Parce que non, là, tel que je le présente, ça vous paraît un peu ridicule. Mais en fait, beaucoup de gens sont malthusiens. Voilà. Donc là, maintenant, vous savez un peu ce que c'est que Malthus. Et donc c'est l'abstinence, la seule façon d'augmenter le PIB par tête chez Malthus, d'accord ? Et pas la croissance de la productivité. Donc c'est ce qu'on appelle une trappe malthusienne, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, si ce n'est par l'abstinence, pour augmenter le niveau de vie. Et par exemple, il donne cet exemple-là qui est très parlant. Par exemple, il y a eu en Chine... ce qui s'était passé, donc je regarde juste une seconde, quand il y a eu je voulais juste regarder, oh là 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 là, l'exemple chinois, voilà, c'est ça. Le premier exemple, c'est en l'an 1000 après Jésus-Christ, la Chine était le pays le plus avancé au monde, Mais parce qu'il y avait une croissance de la population forte, en fait, les gens vivaient au niveau de subsistance. Et donc, pratiquement au même niveau qu'en Europe, alors que l'Europe avait un niveau technologique inférieur à la Chine. C'est intéressant. Donc, c'est très une illustration de Malthus, vous voyez. Autre exemple, l'introduction des pommes de terre découvertes en Amérique, en Irlande. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la population irlandaise a triplé pendant le siècle qui a suivi 1750 quand la pomme de terre a été introduite. C'est énorme, triplé, vous vous rendez compte? Et donc, quand on regarde le PIB par tête en Irlande, il n'a pas augmenté, quoi. Si vous regardez en 1750-1850, il y a à peu près au même niveau qu'en 1750, alors qu'on introduit la pomme de terre qui permet de nourrir plein de gens. C'est quand même très intéressant. Et c'est vraiment à nouveau le modèle malthusien. Donc, si vous voulez, les gens ont beaucoup cru sur la base historique à Malthus, d'accord? Donc voilà. Alors là, donc si vous voulez, maintenant je voudrais discuter. Donc c'est ce que je vous dis là. Voilà l'exemple chinois et l'exemple irlandais. Donc là je vous le remets en slide. Hein. La Chine, le pays le plus technologiquement avancé, son niveau de vie est aussi proche du niveau de subsistance européen à l'époque, en retard technologique sur la Chine. Importation de la pomme de terre en Irlande, la population irlandaise triple, mais le PIB par tête n'augmente pas entre 1750 et 1850. D'accord ? Les pays plus productifs ne jouissent pas d'un niveau de vie plus élevé. Tout passe dans la démographie. Ça, c'est la prédiction malthusienne. D'accord ? Alors, évidemment, on va se dire, mais quand même, il y a eu quelque chose. Vous vous rappelez, quand je vous ai raconté la dernière fois, je vous avais dit, il y a la courbe de Kuznets sur les inégalités, puis je vous ai dit, mais regardez, à partir de 1980, la courbe de Kuznets, ça ne marche plus très très bien, puisque les inégalités se remettent à augmenter. Là, il y a un peu la même chose. Malthus, ça a l'air très bien, mais quand même, la révolution industrielle, c'est un petit problème. Alors évidemment, les Malthusiens peuvent vous regarder de haut et disent, vous savez, l'industrialisation, c'est une parenthèse. Ça, on regardera ça comme un petit epsilon au niveau historique, puisque ça commence en 1820 et que ça va s'arrêter maintenant, avec la COP21, on va décider mondialement de stopper de toute activité industrielle. Et donc voilà, ça aura duré 200 ans, et puis, de 300 ans, et on termine. De 200 ans, et donc on termine. Comment expliquer que les... Et donc là, la question est la plus importante, il y a des gros débats là-dessus. Comment expliquer que les pays européens soient sortis de la trappe malthusienne au 19e siècle? Et là, il y a en gros plusieurs théories. Il y en a déjà au moins deux. Je vais vous en donner deux pour vous dire qu'il y en a encore d'autres. D'accord? Donc une première théorie pour expliquer pourquoi on sort de la trappe malthusienne, c'est de dire, c'est une théorie qui vous, un petit peu, voilà, elle vous paraît un peu tordue, mais voilà, je vous l'explique un peu comme ça. C'est de vous dire, voilà, la Terre, c'est une technologie où on met des gens à travailler sur la Terre et ils ont un certain rendement marginal. Alors évidemment, quand il y a peu de gens et beaucoup de terre, chaque personne apporte beaucoup. Mais évidemment, quand il y a beaucoup de gens et la même quantité de terre, chaque personne apporte peu. C'est ce qu'on appelle le rendement marginal d'un individu. Donc, quand vous regardez, à l'origine, on peut vous dire, vous avez une population faible au niveau mondial, il y a beaucoup de terres, ça vaut le coup de faire de l'agriculture, d'accord? Et il y aurait peut-être d'autres technologies qui, elles, n'utilisent pas la terre, seulement elles ont des rendements marginaux moins grands quand la population est faible, vous voyez? C'est quand même génial, quand j'ai une énorme quantité de terre, je suis tout seul, si je peux bien labourer, j'ai un rendement énorme. Si je travaille tout seul sur une machine et qu'il y a un individu de plus avec une autre machine, etc., ça ne fait pas beaucoup plus. Donc au début, on se dit, la population est faible mondialement, il y a beaucoup de terres, le rendement est très fort à travailler dans l'agriculture. Et donc on est dans un univers agricole où le modèle de Malthus s'applique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, eh bien, à cause de la congestion dont je parlais tout à l'heure, ça devient profitable. Donc il y a, et on peut dire, mais mettons qu'il y ait ça, et puis qu'il y ait quand même progrès technique. Donc avec le progrès technique, il va y avoir productivité qui augmente, la productivité augmente. Comme la productivité augmente, on est au début dans un monde malthusien, les augmentations de productivité vont être absorbées par la croissance de la population, et donc la population se met à croître. Donc je vous raconte une histoire maintenant. Il était une fois le monde. Le monde était une économie agricole. Peu de gens travaillent sur beaucoup de terres. Chacun gagne beaucoup. D'accord? Mais il y a des petites inventions, là, comme en Chine, d'accord? Là, on invente le compas, la roue, etc. Enfin, pas la roue, c'est pas une petite invention. Inventer la roue, on aime. Et du coup, la productivité augmente. Comme la productivité augmente, on sait que dans le monde malthusien, ça se traduit par une croissance de la population. Donc la population continue d'augmenter. Mais seulement, à mesure que la population augmente, ça devient de moins en moins profitable de travailler la terre. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Eh bien, ça devient profitable de quitter la terre et de se mettre à travailler sur des machines. Et alors, on échappe au facteur fixe à ce moment-là. Et donc, on sort de la trappe malthusienne de cette manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient profitable d'introduire des technologies où c'est le travail qui travaille avec du capital, pas avec de la terre, pas avec un facteur fixe, avec un facteur qui s'accumule, qui est le capital. Et du coup, on part dans une autre logique. Et peut-être que là, on a des sources de croissance. Bien qu'on a vu avec Solow et avec le modèle néoclassique que sans l'innovation, ça ne vous donne pas de la croissance à très long terme. En même temps, ça vous donne une bouffée d'air dans la croissance et d'accumulation de capital. Donc, si vous voulez, voilà l'histoire. C'est qu'il y a transition de l'agriculture vers l'industrie qui permet d'échapper aux facteurs fixes, c'est-à-dire à la terre. Donc ça, c'était une première histoire pourquoi on a échappé à la trappe de pauvreté, d'accord, à la trappe malthusienne. Il y a une autre théorie, et l'autre théorie, c'est la théorie unifiée de la croissance. Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie unifiée ? Alors, j'ai des collègues, dont un qui s'appelle Odette Gallor, qui est un type très sympathique. Il est à moitié à la Hebrew University, à moitié à Brown, à Providence. Et il dit, moi, c'est génial, parce que moi, je peux tout expliquer. Moi, j'ai une théorie qui vous donne tout. C'est-à-dire, j'ai une théorie qui explique pourquoi il y a eu le décollage industriel du PIB par tête au 19e siècle et qui vous explique également la transition démographique. Et sa théorie, elle se résume de la manière suivante. C'est de dire, voilà, il y a deux choses qui se passent. D'abord, la croissance de la productivité, elle augmente avec la croissance de la population. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, ça c'est commun avec des... Je vous avais parlé des effets d'échelle quand on croit dans une théorie de la croissance comme la théorie schumpeterienne, par exemple. Donc il emprunte en partie une théorie comme la théorie schumpeterienne et il dit, voilà, d'abord le taux de croissance... Il n'est pas constant, il n'est pas donné. La croissance, elle vient, je reconnais qu'elle vient de l'innovation. En gros, c'est ça. Ou en tout cas, d'un progrès technique qui dépend de la population. Donc, en gros, il dit, voilà, eh bien, la taux de croissance de la productivité, elle n'est pas donnée comme ça. Elle vient ou bien d'externalités que nous exerçons entre nous. On se parle l'un à l'autre. Et peut-être aussi de l'innovation. Dans un cas comme dans l'autre, plus la population est grande, plus le taux de croissance devrait être grand. D'accord ? Voilà l'idée. Donc, ou bien que parce qu'on interagit plus... ou bien parce que l'innovation a des rendements plus grands, quand plus la population est nombreuse, plus on veut innover beaucoup parce que le marché est plus gros. D'accord ? Donc, en gros, ils reconnaissent ce fait. Donc là, ils n'inventent rien. Ils reprennent un modèle de croissance endogène. Ils disent, voilà, je prends un modèle de croissance endogène où le taux de croissance de la productivité est relié à la taille de la population, d'accord ? À la taille du marché. Donc, ils disent, voilà, on fait ça. Et alors, après, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va y avoir une accélération du progrès technique. Donc, il dit que c'est vrai, ça commence comme Malthus. La population augmente. Mais comme la population augmente, au lieu que la productivité augmente de manière exogène, elle augmente de manière endogène. Et plus la population augmente, plus ça va emballer le processus d'augmentation du progrès technique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, déjà, ils disent, moi, je dis, le progrès technique va s'accélérer. Alors, est-ce que ça suffit à vous donner le décollage industriel ? Non. Parce que le décollage industriel, c'est l'augmentation du PIB par tête. Or là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez tout d'un coup la productivité qui augmente plus vite qu'avant. D'accord ? Ça va faire que la population va augmenter plus vite qu'avant. Et donc, du coup, le PIB par tête, c'est le ratio du PIB et du nombre de têtes et du nombre de gens. Les deux augmentent beaucoup. Vous ne savez pas ce qui se passe au ratio. Vous comprenez ? Donc, on ne sait pas. Le fait qu'il y ait accélération du progrès technique ne suffit pas à vous donner le décollage industriel, parce qu'il se peut que tout soit absorbé encore par l'augmentation de la population. Et donc, le PIB par tête à l'arrivée, lui, ce n'est pas du tout dit qu'il va augmenter. Il peut même diminuer. Et c'est là qu'ils introduisent un deuxième ingrédient. Et le deuxième ingrédient qu'ils introduisent, c'est ce qu'ils appellent la transition démographique. J'anticipe sur la deuxième partie du... Ça me rappelle quand je me suis marié, j'étais dans une église, mais c'était un peu spécial parce que j'étais à Saint-Étienne-du-Mont, juste en face. Et le prêtre qui nous a mariés, moi j'étais, bon, c'est un mariage mixte, c'est compliqué, mais il voulait parler de la Vierge de Guadalupe, parce que j'avais épousé une personne du Mexique, et donc la Vierge de Guadalupe, c'était très important. Mais comme il avait regardé le match de foot la veille, c'était le mondial, il avait dit la Vierge de Guadalajara, parce qu'il avait vu le match entre Guadalajara et Paris. Voilà. Donc je suis en train de faire un peu la même chose là. Bon. Mais, voilà. Bon, enfin, je ne suis pas en train de faire la messe, quand même, j'espère. Bon. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là qu'est le truc génial. C'est qu'ils disent, voilà, c'est vrai qu'au début, donc regardez bien mon raisonnement. On est dans un univers malthusien. On sait que la croissance, on sait qu'il y a un peu de progrès technique au début qui n'est pas tellement lié à la taille. Mais on sait que, du coup, ça fait augmenter la population. Quand la population augmente, eh bien, ça fait augmenter le taux de progrès technique. Donc, la progrès technique va augmenter. Ça va emballer la population au début. Et donc, au début, vous allez avoir une explosion démographique. C'est ce qu'on a observé dans les pays en développement. On a observé l'explosion démographique. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme la technologie avance beaucoup, les gens commencent à se dire, et c'est là le raisonnement de la transition démographique, les gens commencent à se dire, eh, dis donc, la technologie, elle est vachement importante. Moi, mes enfants, il faut qu'ils puissent comprendre ces choses-là. On revient à Nelson Phelps. Vous vous souvenez de Nelson Phelps? Quand je vous ai raconté Nelson Phelps, que c'était important d'avoir de l'éducation pour rattraper la technologie. Et donc là, les gens se disent, mais mes enfants, comment ils vont tenir? Si j'ai 10 enfants, je n'ai pas les moyens de les envoyer au collège. Alors en France, on peut, bon, hein, mais on veut les éduquer, on veut les suivre. Donc si j'ai trop d'enfants, je ne pourrai pas leur donner la bonne éducation. Et donc l'idée, c'est de dire, eh bien voilà, les gens décident d'avoir moins d'enfants parce que la technologie a avancé beaucoup. Ils vont troquer la quantité pour la qualité. Et c'est ça qui va être l'élément important. C'est-à-dire que vous avez d'abord une technologie qui s'accélère, un progrès technique qui s'accélère. Donc, du coup, la technologie avance très, très vite. Et vous, à ce moment-là, les gens réagissent. C'est là la différence entre les animaux et les êtres humains. Et les animaux peuvent dire, oh, les êtres humains peuvent dire, aïe, 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 maintenant, mes enfants, ils sont largués. Si j'ai trop d'enfants, ils vont être tous incultes et ils ne vont pas suivre du tout le progrès technique. Je dois avoir moins d'enfants. Et ça, ça va inverser, ça va contrebalancer l'explosion démographique. Vous comprenez? Et du coup, le ratio du PIB sur la population va vraiment augmenter. Et c'est ça qui crée le développement industriel. Est-ce qu'il y a des mains? S'il y a des gens qui parlent, levez les mains. Ne me dites pas que vous avez tous compris ce que je vous ai dit. Oh, ma mamie, mais c'est formidable. Mais c'est génial que vous avez tout compris. Oh là 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 là. Mais il ne faut pas hésiter, jamais avoir honte à lever la main et dire je ne comprends pas. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a jamais de honte. Et donc voilà, et donc c'est exactement ce que j'écris. À plus long terme, les ménages décident de réduire le nombre d'enfants pour mieux investir dans leur éducation et ainsi mieux profiter du progrès technique. C'est Nelson Phelps, c'est le choix individuel entre quantité et qualité d'enfants. Et ça conduit à la transition démographique. Et c'est ça toute l'histoire. Donc c'est une histoire assez sophistiquée, parce qu'ils se disent, voyez, regardez, au début, on explique qu'il y a accélération du progrès technique parce que une population plus grande conduit à davantage de croissance de la productivité. Ça conduit initialement à une explosion démographique, mais vous voyez qu'après, les gens réduisent la fertilité et ça inverse le rendement. Donc, du coup, ça va décélérer la démographie et du coup, le ratio du PIB sur la population va augmenter. Et du coup, ils vous disent, bah, écoutez, regardez, c'est vraiment ce qui s'est passé. Si vous allez les pays en développement, au début, ils ne se développent pas du tout. Il y a stagnation du PIB par tête de la population. Puis ensuite, et quand ils s'industrialisent, il y a explosion de la démographie. Mais vous voyez qu'après, il y a décélération de la démographie et décollage du PIB par tête. Et ça, c'est une vision très optimiste du monde. Si on dit, voilà, c'est vrai qu'on a une surpopulation, mais voyez, et des gens disent, grâce à ça, en 2050, eh bien, l'ensemble, on verra la population du globe entier se stabiliser. C'est ce que beaucoup de démographes anticipent, c'est-à-dire qu'à cause de ça, ils anticipent qu'il y aura stabilisation de la population. Donc là, on est encore en augmentation, mais en 2050, ça devrait se stabiliser, et du coup, les choses, on pourra respirer un petit peu. Donc voilà, donc c'est un petit peu, voilà, c'est des raisonnements intéressants, et maintenant on peut dire, voilà. Donc c'est très attrayant, cette théorie, parce que, en plus, si vous voulez, c'est une théorie qui vous est une théorie de la croissance depuis Mathusalem et de la population depuis Mathusalem. Donc, si vous voulez, ces gens-là arrivent et vous disent, écoutez, moi, j'ai tout expliqué, faites un autre métier, allez faire autre chose que de faire de la théorie de la croissance. Moi, j'ai une théorie qui explique tout depuis toujours. Voilà, ça, c'est assez sympa. Il est très sympa, alors. Il vous le dit sans grande prétention. Il te regarde comme ça en disant, tu es très sympa, mais moi, j'ai tout inventé, j'ai tout compris, je vous ai donné toute l'histoire. Maintenant, tu peux regarder les petits détails, comment tu fais de l'innovation rue des écoles, tu peux t'amuser ou aller pour aller à Maubert, etc. Mais moi, je t'ai expliqué le monde. Voilà. Bon. En gros, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que la transition démographique empêche que la croissance de la population, qui s'est accélérée, puisqu'il y a l'effet d'échelle, n'absorbe entièrement l'accélération du progrès technique, ce qui nous sort de la trappe malthusienne. Le PIB par tête, finalement, peut se mettre à augmenter, et ce, durablement. Et ça, c'est la théorie de comment sortir par la croissance, par la théorie de la croissance unifiée. Alors, voilà. Alors, maintenant, si on veut regarder un soutien empirique, eh bien, un premier soutien empirique de la théorie unifiée de la croissance, c'est la première figure que je vous ai montrée. Et je l'ai mise deux fois, vous voyez, j'ai voulu faire deux fois la bonne chose. Eh bien, le support empirique, c'est d'abord la figure, je la remets, c'est la première figure que je vous ai montrée. Ça va dans le sens de ce que disent mes petits copains. Mes petits copains, ils vous disent, bah, plus le pays est avancé, plus, voyez, plus le taux de croissance de la population réduit. On voit bien qu'il y a une transition démographique. Quand vous avez un truc comme ça, c'est que forcément, à un moment donné, vous avez une transition démographique. Donc, voilà, il montre bien cette figure, elle montre bien que les pays plus avancés ont un taux de croissance de la population plus faible que les pays moins avancés, ce qui contredit. Et, mais le problème de ça, c'est que si ça, c'est vrai, ça contredit le premier diagramme de Malthus, puisque si ça, c'est vrai, ça veut dire que Malthus, là, n'avait pas raison. Malthus considérait que plus le taux de croissance de la population était que plus le qu'il y avait une relation positive entre le PIB par tête et le taux de croissance de la population. Or là, la transition démographique, c'est une idée qui va contre ce diagramme. Donc on peut pas dire qu'on est malthusien et ensuite dire moi je vous explique comment je sors de Malthus, mais là il sort de Malthus d'une manière qui remet en cause Malthus. Donc il ne peut pas tout avoir. Donc M. Galore, il vous explique comment je sors de la trappe, mais il en sort si bien qu'il la détruit, la trappe. Il donne un gros coup de pied dans la trappe, vous voyez. Donc la pauvre trappe, elle n'a plus. Bon, donc ça, c'est la première chose, vous voyez, le premier problème, c'est qu'il contredit le premier diagramme de Malthus. Ensuite, sur la transition démographique, c'est quand même une chose intéressante, c'est que ce n'est pas complètement juste. Si vous voulez, jusqu'en 1870, on observe au niveau mondial une croissance du PIB par tête qui va de pair avec une croissance rapide de la population. C'est-à-dire que jusqu'en 1870, ça se passe comme dans Malthus. En 1870, si on regarde jusqu'en 1870 au cours du temps, on voit, parce que Malthus, c'est à un moment donné, c'est pas temporel, Malthus. Vous voyez, il montre que des corrélations, c'est une photographie. Le problème de Malthus, c'est que ça, c'est pas l'histoire d'un pays, c'est une photographie de différents pays. Ils peuvent avoir plein d'autres différences entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce qu'on appelle des effets fixes de pays. Ça, évidemment, ça n'en tient pas compte. On vous montre des points et on vous dit, voyez, en gros, les pays qui ont un PIB plus élevé ont des pays avec un taux de croissance de la population plus faible. Mais ce n'est pas vraiment, ça n'explique pas ce qui s'est passé. Or, ce qu'on regarde, c'est que ce qui s'est passé, c'est que jusqu'en 1870, la croissance du PIB par tête est allée de pair avec une croissance rapide de la population. Donc, jusqu'en 1870, on est dans la courbe de Malthus. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une histoire petit pousset, Hansel Gretel. Hein, on a vu que le taux de croissance de la population est de 0,2 de 1500 à 1700, de 0,4 de 1700 à 1820, de 0,7 de 1820 à 1870. Et la croissance du PIB par tête, elle augmente en même temps que le taux de croissance de la population. Donc, jusqu'en 1870, on est très bien dans un... On dit de ce point de vue-là, c'est pas... Vous voyez, il y a eu développement et pourtant la population a augmenté. Vous voyez, il n'y a pas eu de transition démographique. Et c'est seulement après 1870 que la croissance du PIB par tête a commencé à s'accompagner d'un ralentissement de la taux de croissance de la population. Ça, ils n'expliquent pas. Pourquoi à ce moment-là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quand même une chose intéressante. Pourquoi jusqu'en 1870, leur histoire ne s'applique pas? Et eux, ils veulent expliquer le décollage industriel. Or, le décollage industriel, il a lieu à partir de 1820. Il ne commence pas en 1870, en Angleterre notamment. Hein? Donc, ça ne peut pas expliquer leur truc, d'accord? Donc, il y a quand même un problème, là. D'accord? Je vous mets un peu les débats. Alors, je voulais juste vous montrer, sur la transition démographique, juste vous dire quelques petits éléments qui sont les suivants. D'abord, il y a un premier élément, c'est la transition dans la mortalité. La transition dans la mortalité. Qu'est-ce qui a créé la transition dans la mortalité? La mortalité... ça vient de différentes sources. D'abord, on peut regarder qu'en Inde, c'est très intéressant. En Inde, l'espérance de vie était de 27 ans en 1930 et de 55,6 ans en 1980. En 50 ans, l'Inde plus que doublé l'espérance de vie. C'est extraordinaire quand même ce qui s'est passé en Inde. En France, on passe de 27,9 à 56,7, c'est-à-dire à peu près la même distance en âge en presque 200 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils mettent 50 ans à faire ce trajet, et nous, on met presque 200 ans à faire le même trajet avant. Donc, l'Inde a été beaucoup plus vite que nous. Alors, évidemment, pourquoi? Parce qu'il y a une diffusion technologique, les vaccins, etc. On en a parlé, la convergence, la fameuse convergence en espérance de vie. Donc, c'est quand même intéressant. La France a mis 3 fois plus de temps que l'Inde pour un accroissement comparable en espérance de vie. C'est intéressant, déjà, de regarder la mortalité. Mais parce qu'il s'est passé des choses. Et puis, par ailleurs, il y a une autre chose qui est intéressante. L'Inde atteint une espérance de vie de 56,7 ans avec un revenu par tête de 1 239 $. Un revenu par tête et par an de 1 239 $. Alors que la France atteint la même espérance de vie avec un revenu par tête en équivalent de maintenant de 4 998. C'est-à-dire que l'Inde peut se permettre, grâce aux médicaments et à la diffusion de la médecine des pays développés vers les pays moins développés, l'Inde a pu atteindre une espérance de vie avec un revenu beaucoup moins important par tête que la France avait pour la même espérance de vie. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses. Évidemment, nous, quand on a atteint ce niveau, on bénéficiait pas de médicaments ou de progrès médicaux comme l'Inde en a bénéficié. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous redonne encore une idée de l'aspect, disons, spillover, de l'aspect convergence en espérance de vie. Donc ça, c'est intéressant. Alors maintenant, on peut dire, mais qu'est-ce qui a réduit la mortalité? En gros, la transition, l'explosion démographique, elle est venue... Qu'est-ce qui a fait l'explosion démographique? L'explosion démographique a fait, on peut dire, il y a l'idée malthusienne, un PIB par tête fait que vous pouvez avoir plus d'enfants. Mais il y a eu aussi des choses qui ont provoqué l'explosion démographique et qui ont réduit le taux de mortalité. Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion démographique? Il y a eu des changements. Il y a eu d'abord l'amélioration de la quantité et de la qualité des aliments. Ça, c'est très, très important. Ensuite, il y a eu l'amélioration de l'habitat. Le lavage de vêtements plus fréquent après 1875 en France et en Angleterre. Donc ça, c'est dans ces d'autres-là. Et ça représente à peu près 90% du déclin de la mortalité. Donc le gros du déclin de la mortalité, c'est même pas les trucs médicaux, c'est l'hygiène, si vous voulez. C'est vraiment les aliments, l'habitat, les vêtements, etc. Et ensuite, il y a eu l'amélioration vraiment de l'hygiène publique, c'est-à-dire l'eau potable grâce au nouveau système d'égouts et d'eau courante. Et ça, tout ça, et donc évidemment, grâce à ça, on réduit la mortalité due au choléra, due à la fièvre typhoïde, etc. Et ça, c'est la seconde moitié du 19e. Et les traitements médicaux, vraiment, les progrès, c'est depuis le début du 20e siècle. Donc on voit qu'il y a ces trois phases. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gros de la réduction de la mortalité vient déjà de la première et de moins de mesure de la deuxième. L'amélioration de la médecine, c'est tout petit comparé aux deux premières. C'est intéressant de voir ça. Donc ça, c'est tout déjà à comprendre un petit peu. Et ça, évidemment, toutes ces innovations ont contribué à l'explosion démographique. C'est pas juste la force malthusienne, c'est pas juste parce que le PIB par tête a augmenté qu'on a eu plus d'enfants, c'est que aussi la mortalité pendant cette période-là s'est réduite, quoi. Parce que voilà tout ce qui s'est passé depuis le début à ces différents stades. Donc ça, c'est quand même très intéressant de comprendre un peu l'évolution du taux de mortalité. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu l'évolution des taux de fertilité, d'accord? Et les taux de fertilité, eh bien, on voit qu'effectivement, depuis la fin depuis les années 1860, par exemple, on voit aux États-Unis. Alors évidemment, à votre avis, qu'est-ce que c'est ça, le truc qui se met à monter? C'est quoi? J'en ai parlé avant. Je sais que je ne peux pas vous interroger, mais je fais comme si. Vous savez, c'est un réflexe. C'est tellement d'années où j'ai fait comme ça en interrogeant. C'est le baby-boom, le fameux baby-boom qui vous fait monter, évidemment. Mais si vous regardez quand même en longue période, vous voyez qu'il y a un taux de fertilité qui baisse. Hein, c'est le nombre de filles par nombre de filles, en gros, le taux de fertilité. Hein, parce que tout passe par les filles, donc c'est le nombre de filles par nombre de filles. Donc en gros, et vous voyez que le taux de fertilité diminue. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour d'autres pays. Mais donc, on voit tous les pays développés, eh bien, on a vu le taux de fertilité se réduire. Ça vous montre qu'on peut considérer qu'on a des données sur ce que la fertilité désirée et la fertilité réelle. Ça, c'est la fertilité que les gens veulent, et ça, c'est la fertilité véritable. Et on voit qu'en fait, il y a un alignement de la fertilité réelle sur la fertilité désirée. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand même beaucoup, c'est la fertilité désirée. Et c'est très intéressant donc de comprendre pourquoi la fertilité s'est réduite. Alors je vais essayer de donner quelques explications pour essayer de voir pourquoi un pays plus riche peut vouloir réduire sa fertilité. Une première raison, c'est que, évidemment, on pourrait dire quand vous êtes plus riche, on veut consommer plus de tous les biens. Les enfants, c'est quand même une source de joie, donc on pourrait en avoir plus. Ça, c'est la logique malthusienne. Mais d'un autre côté, il y a un problème de substitution. C'est-à-dire que quand vous avez plus d'enfants, vous devez passer du temps à élever vos enfants que vous ne passez pas à travailler. Quand le revenu est plus élevé, vous perdez plus. Ça, c'est un effet de substitution. Le premier est ce que j'appelle un effet de revenu. Alors, chez Malthus, c'est l'effet de revenu qui domine. Quand vous êtes plus riche, vous voulez avoir plus de tout, y compris plus jouir de vos enfants, c'est le petit pousset. Qu'est-ce que je suis content de les avoir tous à la maison, on s'amuse bien, c'est sympa. Ça, c'est l'effet de revenu. Mais il y a l'effet de substitution qui est de dire, si dans le petit pousset, la maman ou le papa pouvait travailler ailleurs dans un bureau, eh bien, ça serait peut-être très différent à un certain salaire. Ils se diraient, mais quand les choses vont très bien, je peux gagner beaucoup plus ailleurs qu'à travailler. Donc, quand les choses vont mieux, au contraire, je devrais avoir moins d'enfants et pas plus d'enfants. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on se dit, au début, peut-être que jusqu'en 1870, c'était surtout l'effet de revenu qui était important, Mais le deuxième, mais on peut dire qu'après 1870, c'est l'effet de substitution qui est devenu plus important. Parce que, eh bien, notamment les femmes, elles ont des opportunités de travail qu'elles n'avaient pas au début. Vous voyez, donc plus en plus, les femmes avaient la possibilité de travailler et de gagner leur vie. Ben, ça augmente l'effet de substitution, évidemment. Hein. Donc, et on sait que, notamment l'éducation féminine, à partir du moment quand il y a eu l'éducation des femmes, et je vous avais montré sur l'éducation que, notamment sous la pression des militaires, on éduquait tout le monde beaucoup plus, y compris les femmes, ben, évidemment, ça a fait que les femmes aussi pouvaient gagner beaucoup plus en allant travailler sur le marché du travail. Et évidemment, ça a contribué à renforcer l'effet de substitution par rapport à l'effet de revenu. Donc vous voyez comment on peut quand même repenser, dire voilà, jusqu'en 1870, on est très dans une logique malthusienne, plus on est riche, plus on a d'enfants, mais après 1870, on dit que l'effet de substitution devient plus important que l'effet de revenu, plus on est riche, moins on en veut, parce qu'une raison déjà, c'est qu'on dit je peux gagner beaucoup plus en faisant autre chose, d'accord ? Ça c'est la première raison. Mais il peut y avoir aussi, il y a aussi quelque chose, c'est que quand un pays se développe, eh bien, les enfants, ça travaille plus tard. Vous voyez, quand un pays est plus développé, eh bien, ça coûte beaucoup plus cher d'élever un enfant. Avant qu'un enfant puisse vous amener des revenus, il faut beaucoup plus longtemps, et notamment pour des bons revenus. Et donc ça va dans la direction d'avoir moins d'enfants, mais mieux éduqués. Vous voyez, donc ça, il y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire, un, la technologie est plus avancée, il faut plus de temps pour former un enfant, ça coûte plus cher pour s'approprier une nouvelle technologie, la raison Nelson Feld, ce que je donnais tout à l'heure. Et puis, il y a une autre raison également, c'est qu'avec le développement, se développent des systèmes d'assurance. Et à partir du moment où on développe des systèmes de retraite et des systèmes de ce genre, eh bien, on n'a plus besoin ou moins besoin des enfants pour subvenir à vos besoins, parce que vous pouvez épargner, ou vous avez un système de répartition, où c'est l'ensemble de la société, ou un système de capitalisation, où c'est vos propres revenus que vous mettez quelque part de côté pour votre retraite. Mais dans les deux cas, vous n'avez pas besoin des enfants. C'est le système de retraite qui fait le travail. Et donc ça, tout ça, évidemment, a poussé dans la direction de mettre fin à la logique malthusienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, un, l'effet de substitution qui l'emporte. Deux, ça coûte beaucoup plus cher de permettre à un enfant d'entrer le marché du travail quand la technologie augmente. Trois, il y a d'autres manières que d'avoir beaucoup d'enfants, d'assurer vos vieux jours. Vous pouvez le faire par des systèmes de retraite. Les trois ont été dans la direction de remettre en cause la deuxième courbe de Malthus, celle qui augmentait, et donc d'inverser la logique malthusienne. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant de comprendre cette évolution-là qui a eu lieu par elle-même. Qu'on a observé la transition démographique. Voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de ça. Alors maintenant, un petit peu, voilà où on en est sur le débat. Alors évidemment, la théorie de la croissance unifiée, c'était quand même très sympa. C'est-à-dire dire quand même, voilà, il y a Malthus, même si je crois dans Malthus, à un moment donné, il y a la transition démographique. En gros, la transition démographique, elle vous dit, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est que cette courbe-là, qui est croissante, en fait, à un certain moment, elle devient décroissante. C'est-à-dire que la transition démographique, ça veut dire que cette courbe, elle n'est pas tout le temps croissante. Elle est croissante au début, et puis à un moment donné, l'effet substitution se met à dominer, et cette courbe se met à descendre. Et c'est ça qui fait que, au début, j'ai une logique malthusienne, mais après, je sors de la trappe malthusienne. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est ça qui est, en fait, la logique. Donc, on dit, voilà, ma théorie de la croissance unifiée, ça marche bien. C'est une théorie qui est malthusienne, sauf que là, au lieu d'avoir croissant, j'ai un truc qui est en nu. Au début, c'est comme ça, mais à la fin, l'substitution finit par dominer et ça descend. Et là, dès que ça descend, évidemment, je sors de la trappe malthusienne. Alors, je voudrais maintenant dire, voilà, quelles ont été les discussions, le débat là-dessus. Eh bien, le débat, c'était déjà... Bon, d'abord, là, je vous ai dit, il y a une première théorie qui dit que, voilà, il y avait deux technologies. L'une, c'est la technologie agricole et l'autre, c'est la technologie manufacturière. Au début, c'est profitable de n'utiliser que la technologie agricole quand il y a très peu de population et beaucoup de terres. Et à un moment donné, quand il y a beaucoup de congestion des gens sur la terre, c'est intéressant d'introduire la technologie qui vous fait échapper aux facteurs fixes. Mais c'est difficile de croire que la technologie manufacturière existait déjà et attendait le bon moment pour remplacer l'activité agricole. En général, les nouvelles technologies, elles arrivent par l'innovation. Donc, il vous faut un modèle avec de l'innovation. Ce n'est pas qu'une technologie est là, vous attendez qu'elle soit bonne et vous allez la chercher et vous la prenez. C'est une vision quand même un peu simpliste. Alors, maintenant, la plus sérieuse, c'est la critique de la croissance unifiée. Là, les gens très importants, c'est Joël Mokyr, qui est quelqu'un dont on a déjà parlé, quand on parlait de la concurrence entre pays européens comme source pour expliquer pourquoi le décollage avait eu lieu en Europe. Et justement, Mokyr s'est beaucoup, beaucoup intéressé au décollage industriel en Europe. Vogt est un plus jeune, Joachim Vogt, et qui a travaillé avec Mokyr. Il y a aussi un copain qui était avec moi qui s'appelle Kevin O'Rourke. Ça, c'est trois personnes incontournables en histoire de l'industrialisation. Et Mokyr et Vogt, en gros, ils disent la chose suivante. Ils disent, voilà, Écoutez, la population et le PIB par tête ont augmenté en parallèle dans plusieurs régions d'Europe depuis 1700, contrairement au modèle malthusien. C'est-à-dire qu'on voyait que, quand même, le PIB par tête et la population augmentaient ensemble. Voyez, alors que le premier diagramme de Malthus vous dit que plus la population est élevée et plus le PIB par tête est faible. Or, ils disent, nous, on les a vus augmenter ensemble. Donc, ça, pour nous, c'est quand même une contradiction avec le modèle malthusien. On n'y croit pas trop, quoi. Voilà. Ensuite, ils regardent, ils disent, oui, vous parlez d'un effet d'échelle qui dit que plus la population est nombreuse, plus le taux de croissance de la productivité devrait augmenter. Mais il dit, entre 1700 et 1750, la population anglaise est demeurée constante, à peu près, et la population demeurait constante, mais il y a eu accélération du progrès technique. Donc le progrès technique n'est pas venu uniquement du fait que la population a augmenté. Ce n'est pas juste l'effet d'échelle. Il y a eu autre chose qui s'est passé, qui a fait augmenter la productivité. Et ils disent, bon, et par ailleurs, ils ont, quand sur la partie transition démographique, ils disent, je ne vois pas d'augmentation du premium de qualification qui aurait motivé une substitution du nombre d'enfants par un investissement supérieur dans l'éducation. C'est-à-dire, je ne vois pas dans les données historiques d'augmentation de la prime à la qualification telle que serait motivé un passage de la quantité d'enfants à la qualité d'enfants. Nous ne voyons pas ça. Voilà. Donc on n'achète pas vraiment, en tout cas pas au moment où vous décrivez qu'a eu lieu la transition industrielle. Alors eux, ils disent, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Eux, ils disent, voilà, en gros, Mokyr, sa vision, c'est la suivante. Il s'est passé, c'est un peu un Big Bang, la croissance. Hein. Il n'y a pas de croissance. Mondialement, la croissance, it's a non-event jusqu'en 1820. Et tout d'un coup, il y a la croissance. Hein. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé plusieurs choses. Et Mokyr dit, d'abord, il y a eu la codification du savoir. Il y a eu l'encyclopédie. L'encyclopédie, ça a été très important. Diderot, très important. Ça a codifié le savoir. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas réinventé la roue à chaque fois. On allait, on regardait, on avait des recettes de suite. Ça pouvait être du savoir très fondamental, du savoir très appliqué. Comment faire ? Il n'y avait pas les tartatins à l'époque, mais s'il y avait eu les tartatins dans l'encyclopédie, vous auriez la tartatin. J'aurais mangé une bonne à midi, là. C'est pour ça que je pense à ça. Donc, c'était quand même génial parce qu'on gagnait du temps. On pouvait aller dans l'encyclopédie et on regardait ce qui se passe. Parce que comme ça, je peux toujours bâtir sur les autres. Vous avez passé beaucoup de temps à faire évoluer le savoir. Je ne vais pas repasser le temps que vous avez passé. J'ouvre mon encyclopédie, je vois la recette et je pars de là pour aller plus haut. Et je mets dans l'encyclopédie. Quelqu'un d'autre monte et met dans l'encyclopédie. C'était très important de codifier le savoir pour pouvoir accélérer le fait que l'appropriation du savoir de façon à ce que les générations suivantes peuvent beaucoup plus vite démarrer et améliorer sur le savoir existant. Ils n'ont pas réinventé la roue à chaque fois. Ça, c'est très important. Et en parallèle, c'est grâce à ça, grâce à l'encyclopédie, s'est développée une culture scientifique parmi les artisans et les entrepreneurs. C'était très important. Évidemment, ce qu'il y a eu aussi, notamment en Angleterre d'abord, mais ailleurs, ça a été le développement d'universités de plus en plus autonomes. Il y a eu en Angleterre Cambridge et Oxford qui se sont développés. Et ils sont devenus de plus en plus autonomes, c'est quand même très important, qui ont été des foyers de découvertes scientifiques. Mais les entrepreneurs avaient un intérêt pour ça. Et c'est ça qui était intéressant, c'était que si vous voulez, quelque part, il y a eu, en fait, c'est passé deux choses. Avec la révolution, ce que j'appelle moi la révolution bourgeoise ou la révolution Glorious Revolution en Angleterre, il y a eu à la suite de ça deux choses qui sont passées. D'abord, les droits de propriété ont été beaucoup mieux garantis. En France, c'est venu avec la Révolution française. On a garanti les droits de propriété. On ne pouvait pas venir vous prendre tout, quoi, par les différents impôts royaux. Donc ça, il y avait une protection des droits de propriété. Donc pour un innovateur, un entrepreneur en Angleterre, il avait ses droits de propriété protégés. Et par ailleurs, c'était développé une république des idées, une république des sciences. Et donc, c'est cette conjonction-là, avec la codification du savoir. Donc déjà, vous avez un peu tous les ingrédients qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour le modèle schumpeterien ? Et en fait, c'est tous les ingrédients du modèle schumpeterien. Parce que qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut d'abord avoir des idées, parce que l'innovation, c'est des idées. Donc il vous faut des endroits où les idées sont utilisées. Alors, l'innovation se fait beaucoup, bien dire pratique, mais elle se fait dans les universités également. Donc il y a des universités libres. La liberté est très importante pour l'innovation. Deuxièmement, il vous faut la codification du savoir, parce que si on veut appliquer le savoir, c'est très important qu'il soit codifié. Et troisièmement, il y a les droits de propriété, c'est-à-dire je suis un entrepreneur, je mets en œuvre une idée, je sais que je ne suis pas exproprié, et donc je vais faire l'innovation. Et ces ingrédients-là, c'est tous ces ingrédients-là qui sont réunis. Et en plus, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la concurrence entre pays. C'est-à-dire que si un pays ne veut pas faire ça, eh bien le pays voisin va le faire. Du coup, le pays voisin va devenir beaucoup plus fort, et donc aussi une menace militaire. Et donc l'autre pays va se dire, moi aussi, il faut que je le fasse. Et en gros, c'est ça qui a fait que ça a pris, quoi. Voilà, c'est cette sauce-là, c'est ce mélange-là qui a marché, quoi. Voilà. En fait, il a reconstitué historiquement les éléments du modèle schumpeterien. Et c'est ça pour... Et c'est pas juste le fait qu'il y a un truc mécanique que les parents décident d'avoir moins d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est autre chose. Pourquoi ça s'est passé en Europe ? parce que la force, parce que c'est là le grand truc de Mokyr, c'est que Mokyr, il ici, c'était l'explication de Galor, mais pourquoi ça ne s'est pas passé en Chine? Ça aurait pu se passer en Chine. En Chine, la population aurait pu augmenter. Donc en Chine aussi, vous auriez pu avoir, à un moment donné, la transition démographique. Vous n'avez rien eu de tout ça. Tout ça s'est passé en Europe. Pourquoi en Europe? Parce qu'en Chine, il n'y avait pas la protection des droits de propriété. En Chine, il n'y avait pas les universités libres. En Chine, il n'y avait pas eu la décodification du savoir comme il y avait chez nous. Et en Chine, vous n'aviez pas la concurrence entre pays qui, si jamais un pays ne respectait pas les trois trucs précédents, il se faisait larguer par un pays voisin. Et c'est ça, c'est cette chimie-là qui a fait marcher. Et on retrouve les éléments du modèle schumpeterien historiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que je voulais, voilà. Et ça, c'est la force de Mokyr, si vous voulez, c'est que Mokyr comprend très bien sur le plan historique. Vraiment, allez le lire. Vous savez, faites Amazon, Mokyr. Plus vous lisez du Mokyr, plus ça rend intelligent. Vraiment, c'est génial de lire Mokyr. Voilà. Alors évidemment, c'est difficile de faire la part des choses, parce qu'on peut dire qu'il y a eu une seule révolution industrielle, on n'a qu'un point d'observation. Mais après, il y a eu d'autres vagues technologiques, donc on peut regarder les différentes vagues. Mais il y a eu une révolution industrielle. Il est probable qu'un troisième facteur, un progrès technique graduel, explique la croissance simultanée de la population du PIB par tête avant la révolution industrielle. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est une chose intéressante, c'est encore une chose en débat. Mais vous voyez maintenant un petit peu les termes du débat. Donc, si maintenant on vous pose la question, pourquoi la révolution industrielle s'est produite? Pourquoi elle s'est produite au 19e siècle en Europe et pas ailleurs, et pas avant, etc. Vous avez en tout cas des éléments de débat. Après, vous ferez votre opinion à vous. C'est un débat qui n'est pas tranché. C'est un débat que vous pouvez suivre, mais maintenant, vous avez les éléments pour le suivre. Voilà. Donc, je vais faire une petite interruption, parce qu'il est 14h05. On reprend dans 5 minutes, et je parle de climat. Voilà. Merci.